Mais je pense que la technologie peut, entre autres, être au service de ce changement-là, en fait, de la solution. Parle-nous justement de quelques-uns de vos projets sur lesquels E2IP travaille aujourd'hui.
La plateforme Smart Structural Surfaces, qui est la plateforme d'intégration des circuits fonctionnels à l'intérieur de la matière structurelle, c'est ce qu'on fait, c'est notre propriété intellectuelle, est aujourd'hui porteuse de la capacité de toucher une surface pour qu'un contrôle soit effectué. Cette technologie-là est porteuse d'intégrer de la lumière à l'intérieur de la surface pour guider l'interaction. Mais cette plateforme-là est capable de supporter l'intégration de beaucoup d'autres types de circuits fonctionnels. On peut imprimer des circuits chauffants et on peut imprimer des circuits chauffants sur le Gyproc et transformer le Gyproc en une surface chauffante qui est structurelle et qui est maintenant porteuse d'une capacité de libérer de l'énergie à une consommation d'énergie plus faible et d'une façon plus écologique, puisqu'on imprime avec une encre conductrice lors du processus d'assemblage du panneau de Gyproc. On peut aussi transformer une structure intelligente, une surface intelligente, en un récupérateur d'énergie. Donc, intégrer des surfaces photovoltaïques organiques, donc des panneaux solaires imprimés, dans la surface structurelle pour permettre à la surface de devenir une surface qui prend l'énergie, qui retient l'énergie. On peut même imprimer une batterie et la rendre rechargeable et c'est complètement à sec, sans aucun liquide. Donc, une batterie imprimée rechargeable. Il y a des fonctions de télécommunication qui peuvent être imprimées, des antennes, des bloqueurs. D'ailleurs, on a gagné le prix d'innovation mondiale au Consumer Electronics Show 2021 pour nos surfaces intelligentes 5G, qui permettent d'imprimer des patterns très spécifiques sur des petites feuilles très minces qu'on place sur l'extérieur, par exemple, d'un édifice. Et ces surfaces-là vont faire rebondir les ondes de télécommunications 5G pour permettre le déploiement de réseaux 5G beaucoup plus rapidement, avec une beaucoup plus grande qualité, avec beaucoup moins d'antennes. Et on pourrait un jour imaginer que la surface structurelle, c'est la vitre de l'édifice et qu'on est en train d'imprimer avec une encre transparente un pattern sur la vitre quand elle est fabriquée, ou même par le laveur de vitre qui lave la vitre et qui après ça, qui prend un équipement qu'il tient dans sa main et qui la met sur la vitre et qui imprime un pattern. Et on transforme les surfaces en surfaces intelligentes pour supporter des réseaux de télécommunications beaucoup plus performants. Et ça continue. Donc, on est vraiment au cœur et c'est pour ça que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec sont des acteurs aussi importants dans la croissance de E2IP. Parce que ce qu'on est en train de créer, c'est beaucoup plus qu'une entreprise. C'est un écosystème, une grappe industrielle qui est ici et qui veut devenir le centre d'excellence mondial en électronique imprimable et en intégration de ses fonctions à valeur ajoutée dans les surfaces structurelles. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de capacités ou d'opportunités d'innovation et de création de valeur pour, j'espère, des décennies.
Mm-hmm. J'ai l'impression que ces circuits-là pourraient s'intégrer finalement un peu partout puis avoir différentes modalités puis différentes utilités. C'est fascinant. Moi, je t'écoute parler puis je me dis, mon Dieu, on est-tu dans un épisode de Star Trek? Est-ce que vraiment, réellement, le laveur de vitre va mettre de l'encre imprimable, invisible dans nos vitres qui vont capter l'énergie? C'est comme, oh mon Dieu, c'est...
Peut-être que ça arrivera jamais. Peut-être que ça sera pas faisable. Mais le concept...
pourrait, dans le fond... s'agit aux grandes entreprises de quels sont les besoins. Puis après ça, ben, vous allez être là avec des solutions. Mais j'imagine, comme vous dites, tu sais, dans le fond, comme tu dis, il va falloir créer tout un réseau pour intégrer ça dans différentes industries, tu sais, que ce soit les frigos intelligents ou les appareils électroménagers, tout ça. Juste ça, c'est une industrie. Il va falloir peut-être, tu sais, vous allez tout faire ces secteurs-là.
Mais ce qui est fascinant, c'est que ça prend beaucoup de temps. Mais ce qui est fascinant, c'est quand j'étais jeune, je lisais des bandes dessinées de Dick Tracy, qui était un personnage de bande dessinée avec un grand manteau jaune, qui était détective. Puis il avait une montre, puis il pouvait parler à travers sa montre, communiquer à travers sa montre. Puis il y a pas longtemps, c'était inimaginable, là, il y a certains... Quoi? Non, non. Puis aujourd'hui, régulièrement, j'ai mes AirPods, puis ma montre, puis j'ai pas de téléphone, puis je réponds à mes appels sur la montre, puis je communique à travers ma montre, puis je fais des courriels ou des SMS à travers ma montre. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait en 2 ans. Ça s'est fait en plusieurs années. Ça demande des écosystèmes complets d'innovation. C'est pas une compagnie qui peut être l'innovateur. Il faut créer des écosystèmes d'innovation. Puis c'est un des changements géopolitiques les plus importants. Il y a une immense partie de la chaîne d'innovation des compagnies nord-américaines qui est en Asie. Et il y a une immense activité de design et de développement d'ingénierie en copartenariat qui s'est fait depuis les 3 dernières décennies avec des compagnies qui sont en Chine, qui sont à Taïwan. Et c'est pas juste la chaîne de fabrication, puis la chaîne d'exportation, puis la chaîne d'approvisionnement qui est agilisée par tous les changements géopolitiques. C'est aussi la chaîne d'innovation. Donc, il faut bâtir des écosystèmes d'innovation chez nous, dans nos économies.
Rapatrier un peu la chaîne d'approvisionnement, le savoir-faire pour créer notre écosystème en agroalimentaire. C'est ce que j'ai compris, c'est que, bon, quand on est dans un monde global et qu'il n'y a pas de tension géopolitique et qu'il n'y a pas de changement climatique, ça fonctionne de nous importer du café de la Colombie et du sucre de la Colombie et de nous exporter les lentilles. Mais du moment qu'il y a des changements climatiques et du moment qu'il y a des tensions géopolitiques, bien là, tous les pays se referment. Et évidemment, on veut nourrir notre peuple. Mais là, les Colombiens ne vont pas juste boire du café avec du sucre, puis les Canadiens ne vont juste pas manger des lentilles. Donc, avec tous les changements, je pense qu'il y a une volonté des gouvernements de rapatrier ça, que ce soit dans l'industrie du vêtement ou dans l'agroalimentaire ou dans la technologie. Je pense que c'est important d'investir, là.
Absolument. On le voit avec le blé en Ukraine et en Russie, évidemment, qui nous affecte directement. Les entreprises en Allemagne, au cours de l'année 2022, ont passé une énorme partie de leurs investissements en capital à changer leur infrastructure énergétique. On le voit absolument partout. Puis on le vit, premièrement, au niveau des besoins de survie essentielle, l'énergie, la nourriture, puis surtout après la pandémie, puis l'accès à la nourriture, puis la désagrégation de la chaîne de réapprovisionnement mondiale au niveau agroalimentaire, mais il faut se réveiller au niveau de la technologie et de l'innovation technologique aussi. On le voit par les investissements massifs du gouvernement américain avec le leader mondial des fabrications des puces à Taïwan, TSMC, et avec Intel, et c'est essentiel de continuer cet investissement-là.
Moi, en tout cas, je suis fascinée par ce sujet-là. On pourrait se parler vraiment longtemps. Ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs canadiens qui nous écoutent. Quel serait ton conseil pour les aider à exporter?
Innover.
Un produit unique?
Pas nécessairement absolument en technologie. C'est pas la seule piste d'innovation, puis c'est surtout pas la seule piste valable, mais il faut innover. C'est innover ou mourir. Aujourd'hui, une compagnie, la compétitivité est rendue tellement élevée que si on n'est pas en train de croître, on est soit en danger ou déjà en péril. C'est pas une position viable, le statu quo. À certains moments, pendant certaines périodes courtes, pour des fois des mois ou peut-être une année, consolidation, optimisation, etc. Absolument. Mais il faut innover tout le temps, constamment, pour créer une valeur au minimum différenciée et préférablement unique. Et c'est sûr qu'on veut souvent faire ça par la technologie, mais il n'y a pas juste la technologie. On peut innover en structure d'approvisionnement, on peut innover en logistique, on peut innover de plusieurs différentes façons. Innover en technologie avec des brevets, c'est sûr que c'est attirant parce que ça crée des barrières à la compétitivité. mais c'est aussi très risqué et très long. Fait qu'il faut mesurer, innover. Puis si on va innover technologiquement, moi, j'ai beaucoup appris et apprécié la stratégie qu'on a mise en place ici chez E2IP, de commencer par être un partenaire à nos clients avec les technologies traditionnelles, avec la fabrication traditionnelle, apprendre à connaître nos clients, apprendre à connaître comment ils pourraient bénéficier de nos innovations. Et même quand ils ne le savaient pas, ils étaient partenaires dans notre développement d'innovation parce qu'ils nous informaient quant à des contraintes. Travailler avec eux et comprendre quelles étaient leurs contraintes d'équipement, de capitalisation, de déploiement, d'intégration, etc. Ça nous a permis de façonner, de développer, de guider notre innovation d'une façon que on est confiant, mais on espère va faciliter la commercialisation beaucoup. Il faut innover en demandant à un client, c'est vraiment pas la bonne façon. Parce qu'on a tendance à se ramasser dans un carcan où on n'est pas en train de vraiment innover d'une façon différenciée, où on est en train de livrer une valeur ajoutée spécifique pour ce client-là, qui n'est pas nécessairement de valeur pour d'autres. Donc, mais innover sans le client, c'est extrêmement risqué. Donc, il faut comprendre le client, il faut comprendre quelle innovation pourrait être transformationnelle pour le client, le marché, etc. Il faut continuellement le valider, des fois sans jamais leur demander, je suis capable de voir, OK, oui, ça fonctionnerait là, ça ne fonctionnera pas là, OK, on va tourner un peu plus à gauche, moins de ça, plus de ci, mais il faut rester très près du marché, de l'opportunité du client, sans jamais leur demander est-ce qu'on fait la bonne chose.
Intéressant. Je pense qu'en tout cas, l'innovation, c'est devenu tellement important, surtout suite à la pandémie. Je pense que ça va résonner aux oreilles de plusieurs entrepreneurs canadiens. Encore une fois, Eric, j'ai énormément appris. Je suis impressionnée par ton parcours, mais aussi celui de ton entreprise et de tout ce qui est devant vous. Ça me semble des opportunités infinies, avec des applications infinies. En tout cas, je ne sais pas ce qui nous attend dans le monde de la technologie, mais je pense que E2IP va être là au rendez-vous pour innover et intégrer ces innovations-là là, pour le bonheur de nous, consommateurs au final, des clients, mais oui, des consommateurs. Fait que quand je vais prendre l'avion ou que je vais toucher mon frigo intelligent dans quelques années ou que je vais prendre mon automobile et que je vais bouger mon siège, sincèrement, je vais penser à toi, à la conversation qu'on a eue.
Merci beaucoup. Puis on est tous très excités par l'opportunité qui est devant nous. Puis moi, notre équipe, ce qui nous valorise le plus, c'est que c'est pas mon entreprise, c'est pas notre entreprise à l'équipe exécutive, c'est l'entreprise du Québec et du Canada. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est notre raison d'être, de créer cet écosystème-là pérenne à l'intérieur de nos sociétés qui va exister, croître et devenir beaucoup plus que ça va avoir été pendant que nous, on sera participant actif de l'entreprise et qui va devenir un véhicule de création et d'innovation, on espère, pour les générations à venir. C'est vraiment notre raison d'être. Et est-ce qu'on va réussir? On verra. Est-ce qu'on va réussir une innovation technologique qui va être adoptée? Oui. Est-ce que ça va devenir une plateforme qui va être porteuse de tout le potentiel qu'on croit qu'elle est capable d'amener? Est-ce que ça va devenir transformationnel au point où ça va vraiment devenir cet écosystème-là? Moi, je pense que oui. On pense que oui, puis c'est ce qu'on fait en équipe. C'est pour ça qu'on travaille avec Prima, le MEI, mais surtout, c'est pour ça qu'on a tout créé avec le CNRC et EDC. Et je terminerai en disant que E2IP a eu une croissance et un parcours vraiment hyper excitant de 2016 à 2023. Mais le moteur de la croissance et de l'opportunité globale de E2IP, c'est EDC. Et c'est le fait que EDC est au cœur de qui on est, et c'est le réseau d'EDC qui est porteur d'une capacité de croître sur des marchés internationaux, dans des marchés internationaux, avec les partenaires internationaux qui font partie du réseau d'EDC. C'est ces relations-là que EDC entretient avec ces immenses compagnies-là dans chacun de ces marchés-là, tant par leur financement, tant par leur support, tant par leur appel à ces compagnies-là d'utiliser des compagnies canadiennes dans leur chaîne de réapprovisionnement, c'est vraiment le moteur de notre croissance.
Félicitations pour votre ambition. Félicitations aussi de créer de la valeur, je dirais avec un grand V, la valeur pour tout le Québec puis pour tout le Canada. Je pense que vous êtes, vous allez être peut-être pas connu des consommateurs, mais je pense que vous êtes reconnu à l'international pour votre excellence opérationnelle, votre capacité d'innovation et quelque chose qui est proche de mon cœur aussi avec vos innovations, votre réduction de l'empreinte écologique là, de tous les marchés qu'on a ou de tous les secteurs qu'on a discutés. Je pense qu'on est rendu là en 2023. Donc, merci, Éric, d'avoir pris le temps aujourd'hui de discuter avec moi. Ce fut un réel plaisir.
Mais tout plaisir est pour moi. Puis merci de l'opportunité de partager le parcours incroyable de tous ces employés engagés qui croient à notre raison d'être et notre mission.
Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le balado Impact de l'exportation. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on aimerait que vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. Je vous dis à la prochaine fois.